RMC. Grand Plateau, Johan Bredov.
Salut à tous, merci d'être avec nous dans un grand plateau. Si Kevin Vauquelin s'est brillamment imposé sur l'étoile de Bessèges, la course gardoise a surtout été marquée par les abandons de pas moins de 8 équipes. La raison, la présence de voitures sur les routes à plusieurs reprises. Le peloton a alors décidé de protester en s'arrêtant. La direction a discuté avec les 3 représentants syndicaux du CPA, cycliste professionnel associé, Dries De Bont, Oyer Lascano et Benjamin Thomas. Et d'ailleurs, le coureur de la Cofidis a été le seul à voter pour la reprise de la course. Il est notre invité sur Grand Plateau cette semaine. Il nous dira tout sur ce qu'il s'est passé. On reviendra avec lui également sur le début de saison canon de son équipe, la Cofidis, mais également sur ce qu'il attend, lui, pour les prochains mois, avec notamment, et on l'espère, une deuxième participation au Tour de France. On lui posera toutes ses questions. Grand Plateau, c'est parti. Et avant d'accueillir Benjamin Thomas, il y a Pierre Cochette qui est là. Salut Pierre.
Salut Johan.
Et Jérôme Pinault qui est avec nous. Salut Jérôme.
Salut les garçons. Salut Johan. Salut Pierrot. Ouais.
Et Benjamin Thomas donc qui est là avec nous. Salut Benjamin.
Ouais, bonjour, bonjour, bonjour à tous.
Salut Benjamin.
Déjà la première question elle est toute simple. Benjamin, mais tu participais donc à cette étoile de Bessèges. Tu as dû quitter la course lors du dernier jour parce que tu étais malade. Comment ça va? Est-ce que ça va un petit peu mieux?
Ouais, ouais, ça va mieux. Je me suis repris et puis, ouais, c'est un peu avec tous les abandons qu'il y a eu. Moi, je me retire le dernier jour en étant malade, donc c'est un peu le monde à l'envers. Mais non, l'important c'est que ça va mieux et j'ai eu un coup de froid. J'ai pris un coup de froid, donc là, ça va mieux. Quelques jours de repos et ça devrait pas trop chambouler mon début de saison.
En même temps, on comprend le coup de froid quand on a vu les conditions sur cette étoile de Bessèges, notamment la quatrième étape. On va y revenir. Mais c'est vrai que c'était très compliqué. C'était l'enfer, cette quatrième étape, Benjamin.
Oui, ouais, on a eu des conditions difficiles. Tous les coureurs qui ont terminé ou pris le départ, voilà, on s'était mis en mode guerrier. Et je crois qu'on a eu 2 ou 3 degrés sur l'étape et un peu de pluie-neige sur l'ascension du Mont Bouquet. Donc voilà, l'organisateur avait raccourci d'une vingtaine de kilomètres l'étape. Donc c'était pas plus mal et voilà, c'était une journée, c'est une journée de guerrier. On en a déjà eu, on en aura d'autres et bon, fallait la passer.
Ouais, le cyclisme à l'ancienne, comme on aime. Évidemment, cette étoile de Bessèges, je le disais en sommaire, a été marquée par la défection de 8 équipes parce qu'il y a eu des problèmes sur la route, des voitures, notamment des voitures à contresens. Et je le disais également, Benjamin, toi, tu es représentant du syndicat. Raconte-nous un peu ce qu'il s'est passé lors de cette troisième étape où ça a été le deuxième jour consécutif où on a vu une voiture. Qu'est-ce qui s'est passé pendant la course? Vous voyez la voiture. Qu'est-ce qui se passe dans vos têtes, dans le peloton?
Bah, moi, je tiens d'abord un peu à recontextualiser un peu les choses. Je participe à l'étoile de Bessèges depuis 2015-2016, donc j'ai dû la faire 7 fois quasiment. Donc c'est une épreuve que je connais, que j'ai vu évoluer au fil des années. Et c'est vrai que depuis le Covid, on a l'apparition de beaucoup d'équipes du World Tour qui viennent la faire. Où avant on avait les seules équipes françaises, c'est-à-dire les équipes historiques FDJ, AG2R à l'époque, qui participaient. Maintenant on avait un plateau cette année exceptionnel avec Ineos, Red Bull, Bora, EF, pour citer que ces équipes-là. Donc ça élève le niveau, ça implique une conduite de la course différente, c'est-à-dire qu'il y a un peu plus de nervosité, ça court un peu plus comme en World Tour, c'est-à-dire des équipes qui veulent être placées devant, un peloton qui roule à vive allure loin de l'arrivée, et ça c'est un peu nouveau sur l'étoile de Bessèges. C'est pas forcément quelque chose auquel les organisateurs étaient confrontés les dernières années. Et en fait, avant cette troisième étape, on était déjà confrontés sur la première et la deuxième. La première et la deuxième étape à des conditions un peu de sécurité un peu difficiles parce qu'on est aux alentours de Nîmes. Donc on tourne autour de Nîmes, on est sur des villages avec beaucoup d'aménagements urbains, des dodanes. C'est la semaine, donc les gens travaillent. Quand on est vers les coups de 16h, il y a des gens qui rentrent du travail ou qui vont chercher les enfants à l'école, etc. Donc on se retrouve en fait avec beaucoup de circulation sur les routes et nous la course elle vient un peu couper tout ça et c'est compliqué pour les organisateurs d'assurer la sécurité avec en tout ils avaient les 25 motos à peu près entre la gendarmerie plus les motos bénévoles et on s'est retrouvé déjà sur les deux premières étapes à avoir un véhicule, notamment le deuxième jour, qui s'est retrouvé à contresens de la course, donc qui est rentré sur le circuit à 20 km de l'arrivée, a provoqué une chute. Et sur la troisième étape, on s'est retrouvé un peu avec le même scénario. On a eu une réunion de crise le matin, enfin une réunion d'information et une réunion de crise un peu avec l'organisation, la gendarmerie et les coureurs le matin de la troisième étape où voilà, ils nous expliquent qu'ils vont essayer de changer le dispositif, de sécuriser un peu plus la course et notamment ce problème avec les voitures. Et en fait, au bout de 10 km, on s'est retrouvé avec une voiture qui s'est insérée juste devant le peloton. On était dans un village qui sortait d'une intersection et qui en fait a pris la route juste devant nous. Heureusement, il n'y a pas eu de chute, mais voilà, c'était la goutte d'eau qui a fait déborder le vase qui était bien plein à cause des incidents déjà les deux premiers jours.
Ouais, c'est ça, et la décision donc de s'arrêter de la part du peloton a été prise très rapidement. Et ensuite, il y a eu cette discussion, je le disais, avec l'organisation, tu en faisais partie, Benjamin, il y a eu un vote, tu as été le seul à voter pour la reprise de la course, donc la majorité aurait dû l'emporter, mais finalement les organisateurs ont quand même décidé de reprendre. Ça, c'est étonnant.
Oui, alors en fait, ce qui se passe, c'est que maintenant avec le CPA, notre syndicat, on a des en cas de ce genre d'événement ou de conditions météo extrêmes aussi, ça peut arriver, on peut déclencher un protocole. C'est-à-dire qu'il y a trois coureurs avant la course, trois coureurs sont désignés par le syndicat pour représenter l'ensemble du peloton. Donc c'est pas forcément, ça peut changer d'une épreuve à l'autre. Donc pour cette course, je me suis proposé volontaire pour porter parole un peu de voilà avec mon expérience sur la course, etc. Et donc quand l'incident arrive à la troisième étape, voilà, les coureurs du peloton ont fait signe de s'arrêter. Ça râlait, beaucoup disaient c'est pas possible, ça recommence. Et tout de suite, voilà, le président du jury, l'organisateur, les directeurs sportifs aussi de certaines équipes, il y a un petit conciliabule qui se fait. Tout ça, voilà, on était dehors, il faisait 3-4 degrés. Il pleuvait à moitié, donc c'était un peu des conditions. C'était pas optimal pour faire une réunion là. Mais voilà, on se retrouve donc les trois coureurs représentants, le président du jury, l'organisation, le représentant et directeur sportif. Et là, à ce moment-là, on doit prendre une décision. Donc nous, les coureurs, on explique, on vote quoi. Donc Oyar Lascano de Red Bull Bora, et lui pour la suspension de l'étape, annuler l'étape. Moi, je dis tout de suite que je veux continuer parce que j'étais à l'avant du peloton. J'ai vu la voiture en fait s'insérer et j'ai dit c'est vraiment la faute à pas de chance parce que les motos, on avait des motos à l'avant du peloton. Elles n'ont rien pu faire parce que la voiture est vraiment arrivée au dernier moment et là, c'est vraiment. Elle sortait de la poste, la voiture. Enfin, c'est à un moment donné, non, mais on ne peut pas. Sécuriser toutes les sorties de partout, quoi. Sinon, il faut 10 000 personnes au bord de la route, quoi.
Vas-y, Jérôme.
Je laisse Benjamin finir et j'interviendrai parce qu'il y a énormément de choses dans tout ce que tu dis. C'est très intéressant et le souci est majeur et très important. Et il faut souligner les choses. Et moi, comme je suis retiré, je pourrais le dire, ce que Benjamin ne peut pas dire. Vas-y, finis, Benjamin, finis.
Donc, merci Jérôme. Ce qui se passe, c'est que nous, on vote. Dries De Bont, qui est le troisième coureur, lui, dit également qu'il souhaite suspendre l'étape.
C'est ça, voilà. Benjamin. Ils veulent suspendre l'étape. Quitter l'épreuve, suspendre l'étape. Hein. D'accord.
Oui, c'est important.
C'est très important. C'est très important.
Ouais. Et donc, il disait voilà, on ne fait pas aujourd'hui, on repart demain. L'organisateur, lui, tout de suite dit si on arrête aujourd'hui, demain c'est fini, ça ne repart plus, l'étoile de Bessèges est finie. Le président du jury, au milieu, il nageait un peu entre les deux, il savait pas quoi faire. Les DS, certains disaient aux coureurs rhabillez-vous, vous rentrez au bus et on en reste là. Certains disaient allez-vous réchauffer et on repart dans 10 minutes. Enfin, c'était le chaos un peu général. Moi, après, un coup que le vote a été fait, j'ai vu, deux coureurs sur trois qui sont pour la suspension de l'étape, je me dis bon, ok, l'étape va être supprimée. À ce moment-là, moi, je vais dans la voiture de mon directeur sportif parce que je commençais à trembler de partout, j'étais gelé. Je suis allé mettre une veste, un caouet et en fait, j'attendais juste que l'annonce de l'annulation pour pouvoir rentrer au bus tranquillement. Et après au moins 20 minutes, voilà, on nous annonce la course repart. Et là, c'était le chaos général. Il y a des coureurs qui sont, voilà, qui sont rentrés à leur bus, il y en a qui gueulaient. Il y en a qui disaient c'est une blague, est-ce que ça repart, est-ce que ça repart pas. Et en fait, bah, on est reparti, on était 90 coureurs à repartir sur les 140. Donc il y a quasiment une cinquantaine de coureurs qui ont quitté la course. Et puis après, on a fait l'étape sans encombre jusqu'à la fin. Mais c'est vrai que c'était une journée particulière, une drôle de journée.
Jérôme, tu voulais réagir ?
Ouais, je vais réagir parce que je crois qu'il est important de le souligner. Il est important de souligner beaucoup de choses dans ce que vient de dire Benjamin. Premièrement, la majorité des coureurs voulaient interrompre l'étape et repartir le lendemain. La professionnalisation des équipes et le professionnalisme demandé aux équipes est de plus en plus importante. L'organisateur dans tout ça, il y est pour rien en fait. Ce qui est très important de souligner, c'est que nous payons très cher, très très cher les équipes, hein, je parle des équipes, des cotisations pour assurer nos coureurs et pour assurer l'engagement de nos équipes au plus haut niveau international. C'est donc à l'UCI, l'Union Cycliste Internationale, de mettre en place la sécurité des coureurs et d'assurer que les courses professionnelles soient professionnalisées. Ça, c'est la première des choses. L'UCI, là-dedans, on a bien compris le marasme, puisque même le vainqueur d'étape, Arnaud Delis, est reparti, puisqu'il s'était mis au chaud, ne sachant pas que ses coéquipiers allaient abandonner, parce que personne n'a pris en main une réunion au chaud en se disant « on fait comme ça et demain on repart ». On ne pouvait pas repartir si. On a déjà vu des courses par étape. Malheureusement, c'est souvent suite à des drames où une étape s'interrompt et le lendemain, on repart. Alors, c'était possible de le faire, mais encore, il lui fallu que toutes les équipes et tout le monde, et notamment les commissaires UCI, puissent discuter ensemble calmement et prennent une décision. Encore une fois, le cyclisme ne sort pas grandi puisqu'on n'a jamais su prendre une décision tous ensemble et d'un commun accord. Ça, c'est la première des choses. La seconde chose qu'il faut bien signaler, c'est que les coureurs qui ont fini la course ne sont pas plus courageux ou moins courageux que ceux qui ne sont pas, que n'ont pas fini. Ce n'est pas une question d'être courageux, c'est une question de décision et de respecter les consignes de leur hiérarchie. Donc ça, j'ai lu tellement de choses sur les coureurs qui ont abandonné cette course, qui ont quitté lâchement cette course. Et Benjamin, c'est tout à son honneur, est passé pour un super-héros d'avoir fini la course. Oui, très bien, c'est génial ce qu'il a fait. Mais les autres ne sont pas pour autant à bannir. Ce n'est pas les équipes et les organisateurs qui sont à bannir. C'est pourquoi il manque de moyens pour pouvoir faire sécuriser la course. Benjamin l'a dit quand il est intervenu en tout début de cette émission. Il y a de nombreuses équipes pour le Tour maintenant suite au Covid. Pourquoi ? Parce qu'après le Covid, M. Frangil a dit « Oui, vous viendrez, mais à ce moment-là, vous viendrez, mais sur plusieurs saisons. Ne venez pas profiter maintenant et quand ce sera tout reparti à la normale, quitter l'épreuve ou ne pas participer à l'étoile de Bessèges. » Oui, mais alors dans ce cas-là, il faut mettre des conditions. Et les conditions, c'est quoi ? Le premier jour, il y a une voiture en face. Le problème de la voiture en face, elle est simple, c'est qu'il n'y a pas assez de motards. Parce que si on veut assurer chaque recoin, chaque croisement, chaque sortie de la poste, comme le dit Benjamin, il faut beaucoup de motards parce que doubler un peloton World Tour ou quasiment World Tour, c'est pas la même chose que de doubler une équipe, un peloton d'une équipe, d'un peloton de former d'équipes pro et de pro conti. C'est pas la même chose. Benjamin pourra vous le dire. Ça roule en masse. Chacun veut amener son leader, placer son sprinter. Donc, il est impossible de doubler. Et là, il faut montrer du doigt quelque chose. Et c'est là où je finirai et ma conclusion en vient là. C'est l'État. On est en train de supprimer toutes les subventions possibles et imaginables pour le sport, pour les organisations sportives, pour la culture. Et voilà où on en arrive, c'est-à-dire que des organisations comme l'Étoile de Bessèges, qui est largement soutenue, je l'imagine, par le passé l'était, par la région et le département, se retrouvent avec un budget moindre, donc moins d'argent pour payer la gendarmerie, moins d'argent pour payer ses bénévoles, en tout cas pour défrayer ses bénévoles. Et à côté de cela, l'État continue à rémunérer des projets comme l'installation de Zadis, moi, dans mon département, etc., etc. Le problème, il est là, et la problématique de professionnaliser notre sport qu'on aime tant va être de plus en plus compliquée pour les petits organisateurs. Et on ne parle même pas des droits télé qui devraient être reversés. Sachez quand même que les grands tours ramassent la monnaie quand on organise un tour, alors que ces gens-là, l'Étoile de Bessèges et Madame Frangil, qui tient à bout de bras l'Étoile de Bessèges, payent pour avoir le droit de téléviser sa course. Voilà ce que je voulais dire.
On va l'écouter dans un instant d'ailleurs, l'organisatrice de l'Étoile de Bessèges, Pierre.
Ouais, Benjamin, ça vous embête pas un peu en fait que vous, en tant que vous êtes représentant de coureurs, vous faites un vote et en fait, votre vote et la voix des coureurs n'est pas du tout entendue. Puisque en fait, c'est les patrons d'équipe qui ont décidé soit de rester, soit de partir.
Ouais, après, moi, je dirais que.
C'est mon patron.
On a l'habitude de ne pas être écouté.
Ouais. Malheureusement.
J'allais dire comme d'habitude. J'allais dire comme d'habitude.
Ouais. Parce que moi, ce n'est pas la première fois. Et malheureusement, voilà, j'ai vécu des drames aussi sur certaines courses. Des soucis de sécurité, des chutes de Pologne. J'étais à la chute de Jakobsen. Truc, voilà, j'aime pas me ressasser, mais on y était, quoi. Enfin, et pareil, l'an dernier au Giro, on nous fait attendre sous des tentes par un degré, alors qu'il y a de la neige, et l'organisateur nous dit vous partez, sinon vous êtes hors course. Enfin, on met les. Des fois, on a l'impression, ouais, on est des bêtes de cirque, et on est. Au final, on subit souvent la situation. Et moi, je discutais avec les coureurs, même ceux qui se sont retirés, ils ont dit nous, on veut continuer. On a envie de courir, mais là, on dit c'est, si on fait rien, c'est pas possible. Enfin, chacun a, je comprends l'opinion de chacun, et on peut pas jeter la pierre sur les coureurs qui se sont retirés ou ceux qui ont continué. Je pense qu'il y a aucun des deux camps à la vérité, mais le problème de fond, il vient voilà des moyens mis en place, des moyens qu'on enlève à ces organisations. Je lisais un article, je n'ai pas encore vérifié la source, mais qui disait que l'étoile de Bessèges manquait 20 000 euros quoi, pour boucler son budget. Enfin, je me dis que 20 000 euros, mais c'est quand on voit ce que coûte dans les budgets de l'UCI, je ne vais pas dire de termes vulgaires, mais des bêtises.
Les repas et l'Assemblée générale.
Ça pourrait changer une épreuve comme l'étoile. Oui, voilà,
les frais de voyage des présidents et vice-présidents.
Une organisation, ils disent nous, il nous manque 20 000 euros et on ne peut pas avoir de bénévoles à cause de ça. Et ça pénalise, 5 grosses équipes World Tour. Ça pénalise, à la télé, ça donne un spectacle ridicule. Et je me dis, avec un peu d'anticipation, si l'UCI vérifiait les parcours, donner des conseils, parce que peut-être que l'organisation a. Oui, disons, nous, on est preneurs de conseils. Si vous nous dites l'arrivée de la deuxième étape avec ces petites routes et ce final-là, ça ne convient pas, ben nous, on essaye de trouver un parcours alternatif, quelque chose qui ne met pas les coureurs en danger et qui donne du spectacle. Mais nous, si on n'est pas consulté, on reçoit les parcours 10 jours avant la course, on peut pas changer les choses. Et ça, c'est un problème de fond. Que l'UCI doit prendre vraiment en main la sécurité des parcours et anticiper et pas arriver après que les drames se soient passés ou que les problèmes qui arrivent cette semaine, quoi.
Ouais, vous êtes d'accord en tout cas, toi Benjamin et Jérôme, sur l'UCI qui doit en faire plus. Pour revenir à l'étoile de Bessèges, il y a Arnaud Dely qui s'est imposé d'ailleurs sur la troisième étape. Son équipe est sortie de la course, mais lui est resté, a tenu à participer à l'étoile de Bessèges, a dû faire chaud au cœur à Claudine Fangine, donc qui était invité dans les grandes gueules du sport ce week-end, l'organisatrice de la course. On va l'écouter.
On est que, on va dire, des petits organisateurs bénévoles. On n'a pas les moyens d'Aécho. Je n'aurai jamais les moyens de privatiser la route comme le fait Aécho. Le dispositif qui est sur l'étoile cette année est le même depuis X années. La bulle de gendarmes et la bulle qui était là l'année dernière, ce n'est pas des novices. Et je pense que si ces équipes françaises, en dehors d'AG2R et la nouvelle équipe française qui n'est pas repartie, n'étaient pas là ce matin, eh bien, l'étoile de Bessèges ne serait pas là l'année prochaine, même si elle n'est pas sûre encore d'être là. Mais la différence, c'est que nous, on dit à nous, organisateurs, qu'on doit être solidaires et de prendre toutes les équipes françaises. Et je pense qu'il y a deux équipes françaises qui n'ont pas été solidaires de nous hier. Et si jamais l'étoile doit repartir l'année prochaine, eh bien, elle repartira sans les équipes-là.
On sent l'émotion de Claudine Fangine, donc l'organisatrice de l'étoile de Bessèges. Jérôme, elle le dit à la toute fin de l'extrait qu'on vient d'écouter, peut-être que Decathlon et Unibet ne pourraient pas participer à l'année prochaine, à l'édition prochaine, parce que voilà, ce sont les deux équipes françaises qui sont sorties de la course. Est-ce que ça te choque, toi ?
J'ai beaucoup d'affection pour Claudine qui a récupéré l'organisation de l'étoile de Bessèges après la disparition de Roland, son papa, et ça c'est déjà quelque chose de très fort. Elle n'était pas prévue pour ça, Claudine, mais Après, ce qui, ça me choque, oui, parce qu'on ne peut pas condamner des équipes qui ont pris soin de leurs coureurs et de se dire on se retire pour des sécurités. Ils ne sont pas plus à montrer du doigt que les équipes World Tour qui étaient là au départ. Il ne faut pas oublier que peut-être que Claudine a réussi à vendre son produit un peu plus cher parce que Lidl Trek, parce que EF, parce que Soudal Quickstep, etc. étaient là au départ. Il ne faut pas l'oublier non plus. On est content d'avoir le monde à sa table. On ne peut pas les renier lorsque le repas ne se passe pas bien. Et la deuxième chose, c'est que moi, je suis désolé. Elle est très triste, mais pourquoi ne pas reclassifier certaines épreuves et aller au préalable voir si une épreuve type World Tour, puisque Benjamin, tu peux le confirmer, avec ce beau peloton au départ, bah, c'était quasiment une épreuve World Tour. Est-ce que c'est possible sur ces routes-là? Et si c'est possible, alors on l'a fait. Sinon, on fait un plateau différent ou alors on fait des courses un peu plus sécurisées. Tu sais, l'étoile de Bessèges, si elle avait lieu sur 5 circuits de 25 km à faire plusieurs fois, ça ne gênerait personne. Le début de saison, c'est aussi pour ça, pour mettre en route, pour faire des courses, pour commencer à avoir des jours de course. Les courses en circuit, en grande boucle, c'est peut-être l'avenir du cyclisme. En tout cas, moi, j'y crois parce que ça permet aux équipes de sécuriser, aux organisateurs d'être plus sûrs et aussi d'organiser quelques hospitalités pour que les équipes puissent, elles aussi, avoir une part du gâteau. Donc, peut-être faut-il revoir le schéma complet, mais moi, évidemment, que j'ai beaucoup de... Ça me fait du mal au cœur de voir Claudine comme ça parce qu'on sait combien ça lui tient à cœur et combien cette épreuve est importante dans le paysage du cyclisme français. Mais ne condamnons pas les équipes qui ne sont pas reparties le lendemain et qui ont préféré préserver la sécurité des coureurs. Encore une fois, rappelons-nous de ce qu'a dit Benjamin. La volonté était d'annuler cette étape-là et ne pas partir de l'étoile de Bessèges.
Pierre. Oui, moi je voulais dire deux choses. D'abord,
si je peux me permettre d'ajouter juste par rapport au propos de Jérôme, je le rejoins. Et là, je pense que la réaction de Claudine était un peu à chaud encore. Et je pense que plutôt que d'être dans cet esprit-là, de vouloir condamner à l'année prochaine les équipes, c'est de régler ce problème en amont, d'essayer de trouver des solutions. Moi aussi, j'ai dit, c'est sûr que si on fait le final, la dernière heure de course sur un circuit local, de 10-15 km qu'on arrive à sécuriser et à fermer à la circulation, bah là ça enlève les risques, parce que ça permet aux coureurs, voilà, de connaître la route, d'y passer plusieurs fois. S'il y a des gens qui sortent de chez eux, ils savent, ils voient passer là. Oui, moins de carrefours à sécuriser, et puis on peut à ce moment-là mettre des signaleurs postés en statique et qui sécurisent vraiment tous les carrefours. Et choisir des parcours adaptés avec des routes, la largeur des routes adaptées. Et c'est sûr que quand on fait les deux premières étapes avec 300 mètres de dénivelé et 900 mètres de dénivelé, avec 140 coureurs, dont 90 du World Tour, le peloton il est complet à l'arrivée. Tout le monde est frais, tout le monde est prêt pour être devant. Il n'y a pas de différence de niveau. Et donc, c'est ce qui donne cette nervosité. Et c'est sûr que si on fait 3500 de dénivelé le premier jour, y en a partout, tu as des pelotons, tu as des groupes de 10, et là, il n'y a aucun problème de sécurité. Ou sinon, il faut aller faire Oman au milieu du désert et avec aucun carrefour.
Voilà, mais c'est sûr qu'il n'y a pas de problème à Oman.
Et n'oublions pas, Benjamin, je dois essayer d'anticiper. On doit rajouter aussi quelque chose à ce que tu dis, Benjamin, c'est qu'on vit dans un pays qui est en train, avec grand danger, et ça fait peur, de perdre son civisme. C'est-à-dire que la bagnole qui va dans le sens inverse, qui s'est fait arrêter trois fois, et dès que le motard redémarre, même si c'est un gendarme, elle n'en a rien à faire, elle repart dans le sens inverse. C'est des cas de tous les jours qu'on l'on voit quand on fait du vélo sur la route, quand on va au supermarché, quand on monte dans les transports en commun. Plus personne ne respecte plus rien dans ce pays, et tout le monde... Dès qu'on a le dos tourné, si on peut tuer son voisin, on le fait. Il y a aussi ça, la problématique, elle est là aussi. C'est-à-dire que la dame qui a acheté sa maison au fin fond de la région d'où se dispute la course, elle dit « moi j'ai payé, moi je vais où je veux ». On en est là dans ce pays aussi. Elle est là le problème de la course cycliste qui se déroule sur route ouverte.
Oui, après, moi, c'est sûr que ça arrive, et ça arrive de plus en plus. Mais ce n'est pas uniquement un problème de budget de Bessèges ou de civisme en France. J'ai souvenir que sur le Tour de Lombardie, c'est Scharpmann qui se retrouve face à face avec une voiture. Et il me souvient, comme c'est de Lombardie et que c'est de Lac de Côme et que ce n'est pas le même niveau de vie, c'était une BM, Mais c'était un peu le même problème. Hein, et c'était
bien
pourtant.
L'Italie a un gros problème avec ça aussi.
C'était hein, un monument. Donc on a ce problème-là qui, de toute façon, va toucher à un moment ou à un autre toutes les courses. Et il y a autre chose que je voulais dire, et c'est pour ça que ben, on parle autant de cette de baissage, c'est que finalement il y a eu beaucoup d'incidents en très peu de jours, mais il n'y a pas eu de drame. Bon, il y a Van Gils qui a fini à l'hôpital, ça n'a pas l'air trop grave. Mais il y a eu récemment pas mal de drames, notamment au championnat du monde organisé par l'UCI avec la mort d'une coureuse, et ça fait beaucoup moins de débats en fait, qui est un peu inquiétant et un peu est-ce qu'on se pose vraiment les bonnes questions quand on parle de sécurité, parce que là encore il s'est pas passé grand chose, et tant mieux hein,
il s'est pas passé grand chose. Pierre, il y a quand même Van Gils qui a un genou dans le sac qui est tombé, alors pas grand chose en termes de santé, revanche j'imagine la perte pour son employeur, parce qu'il va continuer à le payer si tu veux hein. Et en France c'est la sécurité sociale qui prend l'arrêt de travail, c'est une grosse perte financière pour tout le monde, ça coûte très cher tout ça.
Bien
et
sûr.
La deuxième des choses, c'est aussi ce qu'il faut mettre en avant, c'est que malheureusement, et ça Benjamin ne pourra jamais le dire, c'était nécessaire ce qui s'est passé à Bessèges. Il fallait que ça s'arrête, il fallait que ça arrive pour qu'il y ait enfin un point de départ à une réflexion, en espérant que la semaine prochaine, j'ai déjà la réponse dans ce que je vais dire, on en ait pris les conclusions et les leçons pour le Tour de Provence. Mais ce sera le même cinéma, c'est obligé.
Ça te fait peur, toi, Benjamin, pour la suite justement de ces courses en France, et d'ailleurs autre part, on l'a vu que c'est pas un problème purement français, ces problèmes de sécurité. Maintenant, tu as une appréhension ?
Bah, peur, non, mais ça me préoccupe. Ouais. Moi, je me demande où est-ce que va le vélo, l'organisation des courses amateurs et professionnelles. Mais déjà, quand je me dis que voilà, certaines courses professionnelles ont du mal à se sécuriser. Ça me préoccupe moi, parce que bah, ça touche directement à notre activité, et oui, c'est triste à dire, mais c'était nécessaire qu'il y ait une prise de conscience, et heureusement on n'a pas eu de drame, et c'était nécessaire que ça arrive, parce qu'on attend toujours d'être dans les problèmes pour réagir, donc c'est j'espère que ça va faire un peu bouger les choses, mais oui, ça me préoccupe parce que moi, je viens d'une famille qui est dans l'associatif depuis 40 ans. On organisait 20 à 25 courses par an, que ce soit des écoles de cyclisme aux élites. Et avant, on n'avait aucun problème à trouver. On avait 20 motards par course, on avait des signaleurs de partout pour nous garder les carrefours. Et aujourd'hui, il n'y a plus rien, quoi. Le tissu associatif, il est bénévole, il est inexistant. Et on est soutenu par... Enfin, il n'y a personne qui soutient ça, et ça fait un peu peur, ouais.
En tout cas, le message... Mais tout ça, Jérôme, tout pour ça, conclure sur cet aspect-là.
Bah pour conclure, le tissu associatif est mis à mal chez nous, dans les associations, qu'elles soient sportives, culturelles ou autres, par nos politiques qui réduisent de façon très forte les subventions. Aujourd'hui, un bénévole, la moindre des choses, c'est de le remercier par un petit pot, par un petit cadeau de bienvenue, un remerciement, voilà, quelque chose qui remercie ces gens-là, sont là pour donner de leur temps. Et même ça, on ne peut plus le faire parce que les subventions sont déannées ailleurs, parce que l'argent public est gaspillé et que le sport passe en dernier. En témoignent les subventions données aux équipes cyclistes amateurs en Bretagne. Il y en a 3 de moins. Pourquoi ? Parce que les départements ont décidé de faire de l'argent public autre chose. Et si encore il était fait pour de belles choses, ça serait sympa. Mais là, ce n'est pas le cas.
Forcément, c'est compliqué pour le budget du sport. Allez, on va parler quand même du sportif, Benjamin, avec toi, revenir sur ton début de saison, sur le début de saison de ton équipe aussi, la Cofidis. Mais d'abord, toi, tu as débuté cette année 2025 sur la piste, c'est vraiment ton premier amour, la piste, toi qui es champion olympique de l'Omnium. On s'en rappelle à Paris 2024. 3 titres de champion de France en janvier, difficile de faire mieux, Benjamin.
Ouais, bah la transition avec la Bretagne est trouvée, avec ces titres à l'Oudéac. Ouais, c'était vraiment la meilleure façon de démarrer l'année. J'avais demandé pendant l'hiver à Cofidis, j'en avais parlé de participer à ces championnats de France qui tombaient à une bonne période avant notre stage de janvier, et puis j'ai pu en plus embrigader Brian Coquart, et donc du coup on a fait ça tous les deux, et puis ça m'a permis de bien de bien mettre en route et de faire des beaux efforts, de retrouver aussi le public français. Et la piste est vraiment mon premier amour. Je garde toujours un pied dans les vélodromes.
Ouais, tu as une année 2024 évidemment remplie avec la piste parce qu'il y avait ces Jeux Olympiques. Cette année, ça sera un petit peu moins, même beaucoup moins. Tu vas privilégier la route.
Oui, ça sera objectif. Bah, l'objectif numéro un, ça serait le Tour de France cette année.
Ah oui.
Une deuxième participation. Et puis, voilà, sur la piste, je pense me limiter aux championnats du monde en fin d'année qui seront au mois d'octobre. Donc, une fois que la saison route est passée. Et sinon, mon activité, je vais faire quelques stages quand même sur la piste parce que j'en ai besoin dans mon entraînement. Ça me permet de... Il y a des coureurs qui font des stages en altitude, il y a qui font de l'acclimatation chaleur. Moi, c'est la piste vraiment qui me permet de rejoindre mon meilleur niveau et d'aller chercher certaines intensités. Donc j'en ferai un petit peu au mois d'avril et au mois de mai en préparation du tour, mais toujours dans un objectif de préparation, quoi.
Ouais. Bon, on l'a vu d'ailleurs, cette préparation, les championnats de France, ça a été énorme pour apporter la victoire à Valentin Ferron, hein, sur la Marseillaise. Ton travail a été exceptionnel. On l'a souligné d'ailleurs dans Grand Plateau, un épisode que vous pouvez retrouver. Justement, parlons un petit peu de ce Tour de France, parce que tu as regardé le parcours. Tu sais très bien de quelle étape je vais te parler. Il y a cette étape qui arrive à Carcassonne. Carcassonne, c'est... Quel souvenir t'en as ? Est-ce que c'est encore un traumatisme, toi, qui a été rattrapé, c'était en 2022, à 400 mètres de l'arrivée ?
Non, mais moi, j'en garde un beau souvenir. j'ai été, bah, pour l'anecdote, là, avant la Marseillaise, la semaine avant, j'ai été faire une partie du parcours. J'ai été reconnaître notamment l'ascension de Sorèze et du Pas du Sang qui seront sur le parcours, qui vont durcir un peu plus par rapport à l'étape de 2022. Ça va être un peu plus dur, il y aura un peu plus de dénivelé. Et non, moi j'en garde un super souvenir. Et voilà, le duo avec Alexis Goujard, c'était une belle partie de manivelle, comme je les aime. Et voilà, être en duel avec le peloton, il y avait tous les ingrédients. Il faisait chaud, j'étais sur mes routes. Voilà, c'était... Moi, j'en garde un super souvenir et j'ai aucun regret ce jour-là. J'ai vraiment tout donné. Même, j'ai été chercher plus que ce que je pensais.
Ouais, on avait vibré pour toi, hein, pour cette course à
Carcassonne. Et moi, alors ?
Eh oui, et toi, Jérôme ?
Bon, il a oublié Gougou à un moment, donc ouais. Ça m'a moins fait vibrer, mais c'était une très belle étape. En tout cas, c'était... Deux belles personnalités à l'avant d'un peloton qui a peut-être montré la voie aussi que le cyclisme n'est pas toujours écrit à l'avance parce qu'il s'en est fallu de peu sur une étape qui était plutôt de transition. Mais quand il y a deux coureurs très costauds et deux guerriers et deux mecs qui ne calculent pas, ben ça peut aller loin.
Et oui, et c'est pas passé loin pour Benjamin.
Je voulais le souligner aussi. Enfin, j'en rebondis parce qu'avec Alexis, on a partagé une saison, il est revenu chez Cofidis l'an dernier et c'était un coureur un peu à l'ancienne, dans le sens
atypique.
Où atypique, il y a des jours où, moi je suis un peu pareil des fois, il y a des jours où je suis là des fois où on ne m'attend pas, comme au Giro, le matin de l'étape de Lucca, je ne pensais jamais aller dans l'échappée, au final le soir je me retrouve sur le podium. Il y a des jours où il faut se dire, le cyclisme il n'est pas écrit d'avance, c'est ce qui en fait la beauté. Et il faut se lancer des fois dans le truc et suivre son instinct. Et Gougou, c'était un des rares coureurs à souvent faire ça. Et parfois, pas souvent, il n'a pas souvent été compris. Bon, mais c'était vraiment un guerrier et on l'a vu faire des numéros de fou, quoi.
Pierre.
Benjamin, avec Cofidis, vous avez un immense enjeu. Vous jouez la place en World Tour. Comment est-ce que vous abordez la saison ? Est-ce que vous avez un calendrier de points à les récupérer semaine après semaine, ou un échéancier ? Ou est-ce que c'est chacun à son tour qui va tenter d'apporter sa pierre ?
Bah, on est très motivés. On a l'équipe s'est beaucoup renouvelée là pendant l'intersaison. Il y a beaucoup de changements en interne. Pas seulement au niveau des coureurs, mais aussi au niveau du staff. Et on a une toute nouvelle cellule performance, donc ça apporte un nouvel élan. On l'a vu, nous on le sent déjà depuis 2-3 semaines qu'on court. Tout le monde a vraiment cette envie de, bah, au-delà de courir avec, enfin, on court pas vraiment avec la peur de descendre ou de perdre notre place au World Tour, mais on a vraiment envie d'aller chercher des gagnes, d'aller chercher la victoire à chaque fois. Et on court pour gagner, que ça soit en Australie où l'équipe a assumé rien arriver avec l'envie de s'imposer tout de suite, ou à la Marseillaise où on a pris nos responsabilités dans le final. À Bessèges, on termine sur le podium avec Dylan. Même si, voilà, après le retrait de plusieurs équipes, il faut relativiser les performances.
Ah, mais les points sont là et la performance est là.
Exactement,
oui. Oui, la performance reste là, et l'état d'esprit surtout. C'est l'implication que nous on met, on tente des choses et on court pas avec le frein à main, mais on court sur l'accélérateur, quoi.
Et oui, l'accélérateur, et ça se passe plutôt bien. Jérôme, tu as suivi ça. Le début de saison de Cofidis, il est quasi parfait, hein, en fait.
Il est très très bon. Ouais. Il est très très bon. Pourquoi ? Parce que les personnalités, les leaders de cette équipe assument leur rôle. Parce que des coureurs comme Coquard, bah, on en dit ce qu'on en dit, mais c'est un mec qui est hyper régulier, qui gagne tous les ans des très belles courses. Il gagne des World Tour maintenant, on l'a longtemps dit, il ne gagne pas le World Tour, bah si, puis il va en gagner 5-6 encore cette année, parce que c'est des mecs fiables, parce que c'est des mecs qui font le job, c'est des mecs qui font du bon vélo, comme Benjamin, comme Dylan Teuns. Il y a eu un renouvellement dans cette équipe. Il fallait un petit électrochoc, puis on s'est retourné vers des valeurs sûres dans cette équipe Cofidis, et ça fait plaisir à voir, parce que je ne parle même pas des points de la montée, de la descente, avec le système que nous offre le cyclisme actuel. Ça veut dire quoi, montée-descente? Est-ce que celui qui va monter aura les moyens de monter, etc., etc. Donc, mais ce que je vois, c'est l'état d'esprit. En tout cas, il est diamétralement opposé de celui de l'an dernier qu'on a vu chez Cofidis. Donc, moi, c'est une équipe française, et donc je l'aime beaucoup, et je leur souhaite tout le bien, parce qu'ils méritent d'être là-haut, et ils méritent de se faire plaisir, parce que c'est une équipe qui est là depuis très longtemps, un sponsor qui est ultra fidèle au cyclisme, avec des vraies belles valeurs. Donc, continuez ainsi, les garçons. Ça nous fait plaisir, en tout cas, à nous, les spectateurs et passionnés de vélo, de vous voir vous régaler sur le vélo.
Ça fait plaisir, ça, Benjamin, ces petits mots-là. Merci.
Ouais. Oui, non, ça fait plaisir, parce que moi aussi, voilà, le système de points, je suis pas fan non plus. Moi, je suis un peu pour le cyclisme des émotions. Je préfère un Pinot à un Vingegaard ou à, enfin, sans vouloir
nous aussi, hein. Mais, voilà,
non, mais les mecs, voilà, je préfère du cyclisme avec des émotions que du cyclisme tout calculé, et où on base tout sur la science, les chiffres, et voilà, c'est nous, on court pour se faire plaisir, on court pour gagner et pour que les gens aiment le vélo. Et le système de points, montée, descente, ouais, bon, c'est bien, ça fait partie du boulot, mais nous, si on pouvait vivre sans, on serait les premiers à le supprimer.
Ouais. on est quand même sur, et ça pourrait faire un long débat, je ne sais où, sur le seul sport qui fait des montées et descentes, alors que même au-delà de tous les autres sports, on peut chercher partout. Sur la ligne de départ, on n'est déjà pas avec les mêmes règles, pas avec les mêmes lois et pas la même fiscalité. Donc, comment voulez-vous qu'on organise un championnat et que les gens qui aillent chercher les points puissent être concernés par cela? J'imagine bien que Benjamin Thomas, que Brian Coquard, et on a parlé d'Alexis Goujard, ils n'en ont rien à taper des points. C'est pas le vélo qu'ils font, eux. Alors, effectivement, quand ils se confrontent à des patrons, des managers généraux ou le système dans lequel ils vivent, parce que pour lequel ils vivent et le métier dans lequel ils exercent, bah parfois ils sont en confrontation avec le plaisir, la passion et le devoir. Et parfois, il ne faut pas s'étonner que certains d'entre eux s'y perdent.
Après, j'imagine aussi que la nouvelle cellule performance que vous avez donc depuis cette saison vous parle de watts, vous parle de chiffres, vous parle de ce type de choses quand même, et que ça donne des résultats.
Évidemment, on a... Oui, c'est sûr. On a recruté Mattia Michelusi, italien, qui vient de Q36, qui a une approche jeune et dynamique. Moi, je le connaissais déjà parce qu'il travaillait sur la piste en Italie. Mais on s'est professionnalisé dans l'approche de l'entraînement. On utilise de nouvelles applications pour la nutrition, etc. Mais c'est ce que je voulais dire, c'est que eux, ils sont aussi sur le plaisir, sur la notion de voilà, est-ce que le coureur, avant le coureur, c'est pas une machine, c'est pas un robot, c'est pas que des chiffres, c'est un humain derrière. Et toujours avant de nous parler entraînement, nous parler de watts, etc. Première question, c'est comment tu vas, ça va dans ta vie, etc. Enfin, il y a vraiment une évolution à ce niveau-là, et nous, on l'a senti depuis 2-3 mois qu'on travaille tous ensemble. Voilà, c'est des petites choses, c'est des petits messages avant les courses, c'est des etc. qui créent en fait un contact humain et qui fait que avec nous, avec des coureurs comme nous, ça matche tout de suite, quoi.
Ouais, mais ça marche bien en ce début de saison, donc début de saison extrêmement réussi de la part de Cofidis et de ta part aussi, Benjamin, juste avant de te remercier, on te revoit quand sur les routes?
Alors, là, normalement, je devrais courir Figueras Classic dimanche et le Tour d'Algarve la semaine prochaine. Donc, voilà, j'espère être vite remis de mon petit coup de froid. Et, bon, et puis, voilà, courir comme j'aime le faire et saisir les opportunités. Si je peux claquer une étape à Algarve, je ne vais pas me gêner. Oui. Et voilà, après, il y aura un gros plateau. Et après, ça sera les courses en Italie, Trophée Liguria et Tirreno Adriatico.
Et voilà le programme de Benjamin Thomas, donc dimanche 16 octobre, début des courses au Portugal sur le Tour de l'Algarve. Il y aura notamment la rentrée de Jonas Vingegaard et la rentrée de Primoz Roglic, c'est pas mal, quand même comme plateau pour le Portugal. Merci Benjamin d'avoir été notre invité dans Grand Plateau. On te souhaite bon courage pour la suite de la saison. Évidemment, on souhaite te voir au Tour de France et cette étape de Carcassonne. Et on te souhaite le meilleur. Merci Benjamin.
Eh ben merci à vous, merci pour votre temps. Merci Jérôme.
Merci Benjamin, merci beaucoup.
Et tiens, nous, juste avant, on va continuer à parler un petit peu de cette étoile de Bessèges, parce qu'on a beaucoup parlé de Benjamin Thomas, mais on a peu parlé du vainqueur quand même. Il est français et on va le souligner. C'est Kevin Vauclin, on en parle tout de suite.
RMC, Grand Plateau.
Et donc Kevin Vauclin qui s'est imposé brillamment sur l'étoile de Bessèges. Il a remporté les deux dernières étapes, la quatrième qui était un enfer, mais il commence à nous habituer, Kevin Vauclin. Et la cinquième qui était un chrono, ça c'est sa spécialité. Mais Jérôme, on parlait avec Benjamin Thomas à l'instant du plateau qui était peut-être amoindri parce que les principales équipes pour le Tour sont sorties de la course. Mais quand bien même, c'est une magnifique victoire de la part de Kevin Vauclin.
Oui, oui, quand bien même les absents ont toujours tort de toute façon. Ouais. Et en plus, je ne suis pas sûr que ça aurait changé grand-chose que les autres soient restés parce que Kevin a affiché un niveau World Tour. Il a affiché un très haut niveau déjà. C'est une course qu'il avait préparée. On n'oublie pas la saison dernière déjà. Il a une victoire étape autour de France. Il a fait une très très belle saison. C'est un coureur top mondial. Et cette victoire est amplement méritée. Et ce n'est pas la victoire du meilleur de ce qui restait. Non, non, c'est la victoire du meilleur coureur de l'étoile de Bessèges. Et tant mieux, il est français, ça fait du bien à voir. Il a pris ses responsabilités au Mont-Bouquet, il est allé au bout de lui-même, dans le froid, dans des conditions exécrables. Le lendemain, il n'a pas fait qu'un bon chrono, il a fait un super chrono avec une nouvelle machine qu'il avait à peine testée. Donc, chapeau à lui, c'est un très, très beau début de saison pour lui. Un Français qui se fixe des objectifs et qui gagne, le début de saison est bleu, blanc, rouge, et tant mieux, il faut savourer.
Pierre, tu voulais réagir,
ouais, j'ai vu ta moue. Non, ce qui m'a impressionné aussi, c'est qu'il est parti de façon quand même très sèche, sans se retourner, mais aussi sans oreillette. Et là, quand on parle de cyclisme à l'ancienne, déjà les conditions étaient elles aussi à l'ancienne, donc il n'avait pas d'oreillette, il passait son temps à se retourner, et on a senti, d'un côté, une certaine forme de puissance et d'efficacité. D'un autre côté, pas beaucoup de confiance parce qu'il s'est beaucoup, beaucoup retourné pour au final mettre pas mal de temps dans la vue de tout le monde, et notamment sur la fin où on avait l'impression qu'il piochait, que lui-même ne se faisait pas confiance, alors qu'en fait, il était vraiment au-dessus du lot et ses poursuivants n'étaient pas à son niveau. Donc il y a aussi cette confiance-là à récupérer pour les cyclistes français quand on voit le numéro qu'il fait et en même temps le côté insécurité permanente sur lui. C'était assez impressionnant le contraste, en fait.
Ouais, c'est ça. Ouais,
quand t'es dans des conditions chaotiques comme ça, Pierrot, c'est compliqué de savoir où tu en es, tu vois.
Non, c'est sûr.
Oreillette ou pas oreillette, dans mon bouquet, je crois que ça n'aurait pas changé grand-chose. L'histoire, c'est qu'il manque de confiance. C'est un garçon qui est en perpétuel doute. Et ça, pour en avoir parlé avec Didier Rousse, son manager sportif, c'est un garçon qui est toujours dans le doute. Et cette victoire va lui faire beaucoup de bien. C'est sûr que sur la montée du Mont Bouquet, évidemment, Thomas Champion deuxième. On aurait préféré voir Van Gils deuxième. Et là, ça aurait été d'un autre niveau, mais... quoi qu'il arrive, il a assumé ça, tu vois. Et sur le haut, il se retourne parce qu'il est au bout et parce qu'il le dit à l'après. Il sentait plus rien, en fait. Il savait plus où il en était. Il avait plus de mains, il avait plus de pieds. Il avait froid partout. Il se dit, c'est pas possible. que d'avoir mis une cacahuète comme ça. Il n'y a pas un qui me suive, quoi, tu vois. Et je pense que c'est un peu logique aussi. C'est le début de saison, ils ne savent pas trop où ils en sont. Il est au taquet et il se dit ah ouais, tiens, il n'y a personne. C'est un peu logique. Et puis tu sais, qui ait eu l'abandon des grandes équipes World Tour, dans la tête, ça ne change pas en fait. Quand tu es coureur cycliste, dans ta tête, quelle que soit l'adversité, si tu es fort, tu es fort. Mais tu as toujours le doute de savoir si tu ne vas pas te faire cogner. Donc c'est à peu près logique pour un coureur qui en plus manque sincèrement et profondément de confiance en lui. Ça peut être que de bon augure pour la suite. Hein.
Ouais, il a eu des spasmes aussi, Kevin Vauclin, il l'a dit, hein, sur cette quatrième étape. Mais après, il commence à nous habituer, je le disais, sur ces conditions dantesques. Rappelez-vous, messieurs, la Flèche Wallonne l'année dernière, où c'était presque pire. Il faisait froid, c'était terrible. Et il fait deuxième, il n'est pas loin de l'emporter. Mmh. Il fait deuxième, presque, c'est ses conditions préférées, Jérôme, pour Kevin Vauclin.
Il y a des coureurs comme ça, ouais, c'est vrai. En même temps, il est normand, hein, tu sais. C'est pas... Non, mais c'est un excellent coureur. Il est en train de devenir l'un des tout meilleurs coureurs de français actuels. Moi, je l'attends beaucoup sur les courses d'une semaine, notamment Paris-Nice. Il peut avoir de très bonnes ambitions à Paris-Nice. Sur les courses d'une semaine, il va exceller. C'est un garçon qui, en junior, était capable de faire toutes les belles courses, même de montagne, hein, puisque moi, je l'ai vu faire deuxième de la Classique des Alpes junior, alors qu'il n'avait pas du tout le gabarit d'un grimpeur à l'époque. Il s'est plutôt affûté depuis, mais c'est un très, très bon coureur, Kevin. Et s'il arrive à prendre confiance en lui et avoir conscience qu'il fait partie des tout meilleurs, a priori, c'est ce qui est en train d'être le cas. Ça peut faire de très, très beaux résultats de cette saison encore.
Hein. Et ouais, on va l'attendre, Kevin Vauclin. Il est en fin de contrat cette saison. C'est logique parce que Arkea aussi se bat avec le classement World Tour pour rester en World Tour. On en parlait d'ailleurs.
Pour trouver les financements aussi.
Et ouais. Pour trouver les financements, on en parlait avec Benjamin Thomas. On a Cofidis 18e et Arkea qui est 19e. Donc voilà, c'est vraiment deux équipes françaises qui se jouent cette dernière place en World Tour. Juste un mot, messieurs, on parle des Français. On va dévier un petit peu de l'étoile de Bessèges parce que c'est assez bleu-blanc-rouge ce qui se passe. Et c'est un événement, Jérôme. On en a parlé un petit peu hors antenne, mais la victoire de David Gaudu sur la troisième étape du Tour d'Oman, on voulait y revenir. Et c'était assez incroyable. Le sprint final, surtout, a été exceptionnel de la part de David, Jérôme.
Chef-d'œuvre de David Gaudu. Il est de retour au premier plan. Voilà. Il a fait une montée de 4,5 km. On ne va pas s'emballer. Hein. C'est pour l'instant une montée plus puncher que grimpeur. Mais il a joué avec Yates. Quoi.
Il a été très malin.
Il a joué avec Adam Yates, qui est l'un des favoris du prochain Giro et Tour de France sera un grand équipier de Tadej Pogacar. Il l'a laissé revenir sur le final en lui laissant croire qu'il était cuit pour remettre un coup de gaz aux 400 mètres. Il a vraiment dominé Yates sur ce sprint-là et les autres. Parce qu'on ne va pas oublier qu'au départ, il y a toutes les équipes World Tour qui donnent des leçons à tout le monde, et notamment Visma Lease a Bike, avec 8 coureurs au départ ou 7 coureurs au départ là-bas, qui n'existent pas dans cette course. Donc, c'est de bon augure. L'eau française sont prêts. On sait donc s'entraîner. On sait donc bien se préparer pour une saison, aussi bien que les autres. Et David Gaudu, qui gagne, qui est l'un de nos tout meilleur représentant pour les grands tours, c'est plutôt une très bonne nouvelle pour la suite de la saison.
Ouais, il sera sur le Giro, David Gaudu. Pierre.
Ouais, c'est vrai qu'on a envie de le voir d'abord dans l'étape Rennes, parce que là, effectivement, la moitié de, ou même un peu moins de ce que va être la montée du Djebel Akhdar dans deux jours, où là, ça va vraiment se jouer. C'est long, hein, pour le coup, cette montée-là. Et c'est à plus de 10%. Après, moi, ce qui m'a marqué, c'est quand même qu'effectivement, sur la fin du sprint, il laisse Yates revenir, et là je me dis, bon, bah, c'est fini parce qu'il y a Van Fass, et que peut-être qu'il va au moins repasser un peu derrière lui, mais non, pas du tout. Il, à aucun moment, il profite d'un abri de Yates, il y va tout seul, Van Fass, sur le sprint final, et ça, c'est vrai que ça met un coup au moral de tout le monde, et je pense que lui, ça doit lui mettre un coup de booster assez fort, parce qu'il avait besoin de ces victoires-là, et on sentait l'année dernière qu'il essayait de trouver des motifs de satisfaction ou d'espérance un peu partout, même si c'était pas encore ça, même si c'était une quatrième place par-ci, même si c'était une cinquième place par-là. Et, et là, c'est pas quatrième ou cinquième, c'est premier, et avec la manière et en marquant le coup. Donc effectivement, là, maintenant, j'ai assez hâte d'être dans deux jours pour voir s'il peut refaire la même en haut du Djebel Agda.
Ouais, dans deux jours, le mercredi 12 octobre, hein, pour la dernière étape de ce Tour d'Oman. Puis il y a eu l'attitude pour conclure. On l'évoquait, Jérôme, parce qu'il y a ce sprint final, certes, mais il y a tout le travail de la Groupama FDJ avant, qui emmène David Godu, et surtout David Godu qui prend ses responsabilités, bien qui sûr, attaque plusieurs fois. Et ça, on l'avait rarement vu finalement sur le Tour de France, notamment sur les grands tours où il se contentait de suivre, il essayait de suivre tant bien que mal. Là, il a pris ses responsabilités, et ces attaques-là aussi, ça montre la confiance qu'il a pris.
Bah, il a pris confiance et puis il est au même niveau que les autres.
Hein. Eh oui.
Y a certains qui gagnent 30% d'ici le début de saison au Tour de France. Lui, ce ne sera pas le cas, mais quand il est à ce niveau-là, il est au même niveau que les autres. Moi, j'ai beaucoup de bon espoir qu'il continue à progresser, que cette victoire-là puisse le réconforter dans le sens où je peux attaquer ces gars-là, ils ne me font pas peur. C'est du pur Gavit Godu, parce que je pense que c'est un garçon qui peut aussi être très en bas quand il doute, mais très très haut quand il est en pleine confiance. On l'avait vu déjà dans l'approche de la saison, dans les interviews et dans sa prise de position. Il avait retrouvé la confiance. Je crois que sa fin de saison l'an dernier lui a fait beaucoup de bien.
Sur la Vuelta
notamment. Et moi, j'ai hâte aussi d'être dans deux jours, comme tu dis, Pierrot, parce que la montée d'aujourd'hui était certes une montée pas très longue, mais assez difficile. Et ce n'est pas sa spécialité. Il est plutôt grimpeur, David Godu. Donc, on va attendre que ce soit deux fois plus long pour savoir s'il peut encore mieux s'exprimer dans deux jours, même si ce n'est que le début de saison. On peut en tout cas espérer que David soit de retour à un très, très haut niveau, et en plus avec l'expérience, parce que dans les victoires comme dans les défaites, et je pense qu'encore plus dans les défaites, on apprend très vite. Et celle de l'an dernier, la début de saison, son doute, et finir sur une bonne note à la Vuelta, peut-être que ça lui a permis de prendre conscience que son métier, c'était un très beau métier, qu'il faisait partie du tout meilleur, et que les années à venir étaient importantes, qu'il ne fallait pas les gâcher. Donc, hâte de voir aussi David très vite de nouveau à l'avant.
Ouais, félicitations donc à David Godu, 12e victoire en carrière. Hein. C'est un coureur qui gagne peu. Et donc, il faut le souligner. Merci Pierre, merci Jérôme d'avoir été avec nous pour
merci les gars.
Cet épisode de Grand Plateau. On a tout brassé. On remercie également encore Benjamin Thomas. Tous les épisodes à retrouver sur vos plateformes préférées, avec notamment les portraits de la semaine également. Et donc nous, on se retrouve très vite. Mettez-nous une bonne note, abonnez-vous surtout, et on se retrouve la semaine prochaine avec le retour du patron Christophe Cessieux qui sera là.
RMC Grand Plateau.